R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour et tout d'abord merci à Marco de m'avoir parlé il y a déjà un certain temps de cette rencontre possible et merci donc aussi à Aline et à Elisabeth d'avoir rendu possible celle-ci finalement. Alors dans des circonstances un peu étranges, ce que je vais essayer d'indiquer, puisque je me trouve entre deux moments en fait. Donc je vais parler en français. Je remercie d'emblée les traductrices et traducteurs pour le travail de mise à disposition de ce que je vais essayer d'articuler. Alors en fait, je suis dans un état d'esprit qui est à la fois une forme d'effervescence et de sidération par rapport à toute une série de choses que j'ai rencontrées, qui me sont arrivées ou pas d'ailleurs, je suis pas sûre que ce soit la bonne expression, depuis maintenant quelques années, et qui contribuent d'une certaine manière à m'amener à complètement me déplacer et revisiter ce qui a été un métier, on pourrait dire ça comme ça, bien que je prenne beaucoup de distance par rapport à mon expérience de sociologue et d'anthropologue, ou que j'essaie en tout cas de les revisiter. Et puis le monde tel qu'il va et tel que j'ai été amenée à m'y impliquer dans le contexte à la fois de la France, de l'Europe, mais aussi de lieux un peu lointains que j'ai finalement décidé d'aller, non pas explorer, c'est ce que j'expliquais dans mon prétexte, que vous pouvez trouver dans le programme, ni même essayer d'expliquer, mais plutôt de parvenir à rencontrer. Alors je vais faire un premier détour, et sans doute y en aura-t-il d'autres au cours de ma présentation. En fait, je reviens de Suède, où je vais rester pendant 2 mois, dans le cadre d'une invitation dans un laboratoire qui traite de questions de migration, d'ethnicité, et de société, qui s'intéresse notamment aux problématiques de citoyenneté et d'accueil des réfugiés, entre autres. Et la ville où je me trouve, donc, et où je vais retourner après ce colloque, s'appelle Norrköping. Et il ne m'a pas fallu très longtemps, lorsque je suis arrivée dans cette ville, pour rencontrer, en fait, les multiples lieux de ce que l'on pourrait appeler la colonialité, puisque dans un programme de musée qui se trouve à 5 minutes de l'endroit où j'habite, il y avait donc cette exposition qui était annoncée et qui va bientôt se finir, et dont la traduction en français, c'est « La famille et les esclaves ». Donc j'étais un peu interloquée, je me dis « Tiens, je suis au Septentrion, en Scandinavie ». Alors je sais bien que la question esclavagiste est une question européenne, mais je ne pensais pas la rencontrer au détour, au coin de la rue. Alors en fait, il s'agit d'une installation qui a été initiée par Carl Johan de Geer. Je prononce très mal, puisque à chaque fois que je le dis, c'est pas comme ça que les Suédois le disent. Donc voilà. Heureusement, il n'y a personne qui parle suédois dans la salle là, qui va me corriger. Et donc, il est le descendant de Louis de Geer, qui est en fait l'instigateur du modèle du capitalisme industriel en Suède. Et Norrköping a été la ville laboratoire de ce capitalisme. Il a vécu au XVIIe siècle, et au XVIIe siècle, il a été pendant 10 ans propriétaire d'esclaves au Ghana. Et donc, Johan de Geer découvre ça au détour de rencontres. En fait, il y a un homme qui vient le voir un jour et qui lui dit « Je suis descendant d'un esclave qui a appartenu à votre ancêtre ». Et ça va se répéter puisque ensuite au Brésil, il va rencontrer quelqu'un qui va lui dire « Je suis descendant d'un esclave qui a appartenu à votre ancêtre ». Donc il se prend ça en pleine figure, comme souvent, et il décide de composer une installation que j'ai indiquée ici, de cette façon-là, on pourrait dire. Hein, elle est dans l'état où elle est visitée actuellement dans le musée. Et cette installation retrace les différentes modalités de son propre parcours à rebours vers cet ancêtre qui est le sien, mais qui est aussi celui qui est fondateur en fait du capitalisme suédois. Alors, même si, d'une certaine manière, dans l'histoire familiale, on dit « oui, mais il n'a été propriétaire d'esclaves que pendant 10 ans, et ensuite il a vendu ses esclaves aux Danois, donc il a refilé l'affaire aux voisins, en quelque sorte », il se trouve que la Suède est partie prenante de cette histoire. Et donc je découvre ça, voilà, en arrivant, en m'installant, et je vais visiter cette exposition. Alors, peut-être que vous discernez pas bien, mais sur la tête de mort qui est sur la photo à droite, il est écrit « non sans cause ». Et c'est en français, puisque c'est la langue de la bourgeoisie, de l'aristocratie, de la distinction. Et c'est donc une langue qu'on retrouve ici, et c'est sans doute pas un hasard, puisque c'est aussi la langue par laquelle est passée la traite esclavagiste, et de façon prépondérante, beaucoup plus que ce récit finalement limité dans le temps et dans l'espace suédois. Donc cette façon d'être rattrapée en quelque sorte par quelque chose qui fait aussi partie de mes préoccupations en Suède m'a permis d'une certaine manière de aussi me préparer ou de déjà être en situation de vous parler aujourd'hui, parce qu'il me semblait que ça nous parle, cette histoire-là. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail de l'installation, mais elle est effectivement assez violente dans ce qu'elle montre. Et d'ailleurs, j'ai observé pendant un certain temps les visiteurs. J'ai essayé de comprendre, est-ce qu'ils restent, est-ce qu'ils lisent. Il y a une bande-son qui est particulièrement détaillée, qui est en suédois, donc j'ai rien compris, à part les mots qui sont à peu près les mêmes, puisqu'ils sont tous avec une racine latine ou grecque, donc esclaves, voilà, traite, des mots récurrents qui revenaient. Et donc je me suis préoccupée de savoir si effectivement les gens prenaient le temps de s'installer pour écouter cette longue bande-son qui dure presque un quart d'heure. Et la plupart des gens, en fait, ne faisaient que tourner, comme s'il s'agissait finalement d'une installation assez ordinaire, comme souvent, où on ne fait que saisir des bribes, entrevoir des détails, et du coup rater sans doute quelque chose d'essentiel ou quelque chose qui, à un moment donné, aurait pu nous parler. Alors ça, c'est la photo de la ville telle qu'elle est aujourd'hui, et donc telle qu'elle a été conçue dès le XVIIIe siècle sur ce modèle du capitalisme industriel. Et cette ville est intéressante parce que, d'abord, donc ça, c'est une vue quasiment de l'endroit où je travaille, en fait. Je suis à deux pas de ça. Et c'est une ville d'eau aussi. C'est une ville qui est traversée par une rivière où l'eau a été un élément essentiel, en fait, de la mise en œuvre du capitalisme. Et on voit à quel point est-ce que c'est un élément prépondérant, en fait, dans la physionomie, mais aussi dans l'identité de la ville jusqu'à aujourd'hui. Cette profusion d'eau, ce bruit de l'eau, il est persistant, il est constant. Et ça m'a aussi rappelé à une chose que j'essaierai d'expliquer plus tard sur d'autres espaces où l'eau manque et où l'eau est une sorte de richesse inaccessible. Par ailleurs, cette ville est devenue, donc, a opéré une transition, puisqu'on est en Scandinavie, donc il y a des moyens. Elle a opéré une transition du capitalisme industriel au capitalisme cognitif. Et donc, tous les bâtiments aujourd'hui sont devenus des bâtiments dédiés à la science, au savoir, à l'économie 2.0. Et le bâtiment où je me trouve, dans le laboratoire, en fait, c'est une des anciennes fabriques, notamment de textiles, puisque c'était une ville réputée pour son lin, qui était considéré comme étant un des meilleurs du monde. Donc vous pouvez imaginer, pour fabriquer du lin, tout ce qu'il faut mettre en œuvre et engager en termes d'importation, en termes donc d'exploitation et de surexploitation. Et ça m'a permis aussi peut-être de renouer avec justement cette dimension qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a bien eu une colonisation nordique. Il n'y a pas seulement celle des esclaves, mais il y a la colonisation nordique de tous les peuples qui sont sur le cercle polaire, notamment. Et la première fois que je suis allée à Norrköping, en fait, c'était pour... j'ai rencontré ces deux femmes, Frédérique Hansen et Tone Nielsen, qui sont des artistes et qui mettent en scène, à la fois à travers des performances, mais aussi à travers des documents, justement ce colonialisme nordique et cette indigénéité qu'elle donne à voir à travers des arts visuels. Et je voulais leur rendre hommage parce que c'est une image que je les ai découvertes il y a 5 ans, donc la première fois que je suis allée là-bas, et j'ai gardé en mémoire en fait cette trace très puissante de ce colonialisme qui résonnait par rapport à un autre colonialisme qui m'est plus familier, que je connais à travers une mémoire familiale et une histoire nationale, on pourrait dire, effectivement, y compris donc l'histoire de France. Alors, voilà de mes pensées pour le moment. Donc, c'est confus, ça se réduit à des tracts, si l'on veut, ou à des mots d'ordre. Et ça prend des formes qui consistent peut-être à essayer de mettre en rapport ces différents tracts aujourd'hui. Alors, je les ai disposés comme ça sur un espace relativement plan pour que vous puissiez les voir. Mais en fait, ils ne cessent d'interagir et d'une certaine manière de dialoguer entre eux, y compris en dépit de moi ou au-delà de moi. Parce que à chaque fois que je reçois un de ces tracts, et il y en a d'autres que je n'ai pas mis là, ça me renvoie à quelque chose que je viens de vivre ou qui va, d'une certaine manière, surgir dans un passé plus ou moins rapide. Donc, chacun de ces tracts parle à une lutte, parle d'une lutte et parle d'une forme de résistance. Et elles sont, effectivement, hein, tous ces tracts renvoient à des expériences qui sont dispersées aux quatre coins de l'Hexagone et de la France, même si, effectivement, l'Hexagone n'est pas quadrangulaire, ça ne nous avait pas échappé. Mais aussi dans ces possessions d'outre-mer qui sont des possessions coloniales, même si il y a toute une manière de les nommer, de les renommer, tels que départements, territoires et autres. Il s'agit bien de possessions coloniales. Donc je vais juste en désigner quelques-unes à votre attention et puis je vais essayer de les remettre sur la carte. Donc... Il y en a dans lesquels je suis directement impliquée et je le signalerai à ce moment-là, puisque effectivement je ne suis pas étrangère à ces tracts. Certains m'ont été donnés parce que je faisais partie du dispositif, pour le dire comme ça. Alors je ne vais pas commenter tous les tracts en rouge que vous voyez là. En fait, ils ont fait l'objet au cours de toute une série de manifestations qui se sont déroulées ces derniers mois, et notamment dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu des formes de transactions qui se sont opérées entre des personnes qui arrivaient avec des paquets de tracts et qui disaient « je t'échange un soulèvement contre qu'est-ce que tu as ?» Et donc la colère, la résistance, voilà. Il y avait plein de mots d'ordre comme ça qui surgissaient et l'idée c'était d'échanger les mots d'ordre. Donc cette pratique de la transaction en termes de renforcement en quelque sorte, hein, de sa présence, du sens de sa présence, de ce que l'on pouvait afficher, parce que l'idée, ce sont tous des stickers, donc on peut les coller, donne une idée de l'état d'esprit dans lequel on peut aussi arriver parfois dans des rassemblements ou des manifestations, c'est-à-dire en étant un peu démuni. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je veux affirmer? Quelle va être ma place? Alors, évidemment, je ne vais peut-être pas vous rappeler, mais le climat général, c'est quand même celui des bombes lacrymogènes, des tirs de flashball. C'est l'arrière-plan de ces échanges. Et de fouilles, par exemple, pour entrer sur les sites de manifestation, pour en sortir. Donc, j'ai à un moment donné voulu sortir d'un des sites de manifestation qui était entre l'Opéra et la Madeleine. Et j'avais ces tracts dans ma poche et j'ai été arrêtée donc par un CRS qui m'a demandé, à me fouiller. Alors que je sortais de la manifestation, hein, je n'y entrais pas. Et donc je lui sors ce que... En fait, il me fouille les poches. Je m'en aperçois après coup. En fait, il me fouille les poches et il vide ma poche. Et dans ma poche, il y a ces tracts rouges et il les jette par terre. Et donc, je me tourne vers lui, je lui dis « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il me dit « Vous n'avez pas à avoir ça sur vous. » Je lui dis « Mais c'est l'expression de... Enfin, c'est la libre expression de mes positions en tant que manifestante. »« Oui, mais vous êtes dans une manifestation interdite, donc vous ne devriez pas être là. » Et donc, je lui dis « Écoutez, je ne vois pas de quel droit non seulement vous m'empêchez d'être là, mais d'autre part, vous m'empêchez d'exprimer mes opinions. » Donc, je me baisse, je ramasse les tracts, je les remets dans ma poche. Et il me dit « Mais si vous les gardez, vous ne pourrez pas sortir. » Je lui dis « Ce n'est pas grave, je ne sors pas. » Donc, je suis repartie dans la manifestation et j'ai continué à errer jusqu'au moment où j'ai trouvé un endroit par où je pouvais... rejoindre la manif du climat, parce que c'était une journée où il y avait beaucoup de manifestations. Il y avait la manifestation de la solidarité gilets jaunes et quartiers populaires. Et il y avait une autre manifestation qui se déroulait à l'autre bout de Paris, qui avait à voir avec le climat. Et donc, voilà. Donc, ces errances, en fait, elles prennent parfois des tonalités. Voilà. Donc, c'est la partie rouge de cet ensemble. Il y a des choses qui ont à voir aussi avec... une mobilisation qui s'est déroulée fin novembre, début décembre et qui avait été initiée par un collectif constitué auquel j'ai participé qui s'appelait le collectif Rosa Parks. Et donc, je ne te dénoncerai pas en disant que tu en fais partie aussi, Françoise Vergès. Voilà. Et donc, ce collectif visait à ce qu'il y ait une mobilisation afin de disparaître de l'espace public, de l'espace professionnel, de tous les espaces où les racisés existent dans le contexte français, et à réapparaître massivement le lendemain, le 1er décembre. C'est une entreprise qui a en fait été un peu réduite à néant par la mobilisation des Gilets jaunes qui se passait au même moment. Et donc, il y a eu une espèce de court-circuitage, en fait, des manifestations qui ont fait que le 1er décembre, il y avait quasiment personne à nos côtés lorsqu'on a défilé dans les rues de Paris, enfin sur le boulevard Voltaire, très exactement. Le boulevard Voltaire. Mais on s'arrête 30 secondes sur le boulevard Voltaire. Alors... autre chose que je vais développer, c'est ce qui est complètement en haut à droite pour vous. Et donc, vous discernerez peut-être, pour celles et ceux qui le connaissent, le drapeau Kanak. Et donc, je rentrais en fait de Kanaky, Nouvelle-Calédonie, quand j'ai pris part à cette manifestation. Et je m'y étais rendue pour... être présente au moment du référendum d'autodétermination en Kanaky-Nouvelle-Calédonie qui a été instauré dans le cadre d'accords entre l'État français je ne sais même pas ce qu'on pourrait dire, oui, les différentes parties prenantes, en fait, les 14 parties prenantes qui sont signataires des accords à la fois de Matignon-Oudinot et ensuite de Nouméa. Dans les accords de Nouméa, et c'est sans doute ce qui m'a à un moment donné frappée et conduite à cette entreprise de partir à trois reprises en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, il est indiqué qu'il y a un processus de décolonisation en cours sur le territoire qui s'appelle Nouvelle-Calédonie. Et donc ce processus va aboutir au bout d'un certain nombre d'années, puisque là c'était 20 ans plus tard, hein, 1998-2018, à un référendum d'autodétermination. Donc j'y reviendrai par la suite. Et j'ai pris au sérieux, en fait, cette expression de décolonisation, de processus de décolonisation, dont l'État français est signataire. Et donc, en le signant, il reconnaît qu'il est bien une puissance coloniale. Même si on fait peu de publicité de cette façon de ce positionnement de l'État français à l'égard d'une de ses possessions coloniales, puisque toutes les autres ne sont pas engagées dans ce type de processus. Hein. Ce sont d'autres modalités, d'ailleurs très éclatées, qui toutes renvoient à des tractations et à des négociations individuelles, on pourrait dire, hein, séparées. Il n'est pas question de traiter globalement de la question des Outre-mer, il est question à chaque fois de faire du sur-mesure, si j'ose dire, et à chaque fois donc de maintenir une certaine forme à la fois d'ingérence et de puissance, hein, d'empire, sur la possession en question. Donc j'ai pris cela au sérieux parce que je viens d'une expérience, d'une histoire, mais aussi de réflexions, d'engagements qui ont à voir avec la question du présent colonial en France et de la façon dont ce présent colonial se manifeste. Et donc, il me semblait que la Nouvelle-Calédonie offrait, en fait, ce miroir et cette démonstration tangible, même si elle est lointaine, du fait qu'il y a bien un présent colonial français et qu'il s'agit de le documenter, de le décrire et de donner à comprendre et à voir. Alors, je résume rapidement les autres, même si c'est leur faire injustice que de ne pas les détailler. Il y a la question des CRA, hein, des centres de rétention administrative, qui concernent tous les immigrés en situation illégale. On pourra revenir sur le terme d'immigré, qui est une qualification stato-nationale, qui est imposée par des États-nations et qui ne fait jamais la place ni la part de ce que ces personnes vivent et de leur expérience. Et d'ailleurs, ça me permet de renvoyer tout de suite à ce tract en bas qui parle des exilés qui ont vécu pendant 4 mois l'année dernière à l'Université Paris 8. Et qui, et on voit bien la différence d'appellation, puisque là, il s'agit de les appeler des exilés. Ils se sont, et elles se sont, appelés ainsi pour, en quelque sorte, se soustraire aux catégories administratives qui les condamnent à n'être que des sans-papiers, c'est-à-dire à être définis par leur déficit et par l'illégalité de leur présence sur le territoire français. Donc, il y a aussi des choses qui renvoient aux gilets jaunes, au débat autour des gilets jaunes, d'autres choses qui renvoient à la question des femmes, et à la façon dont elles prennent place dans l'ensemble des luttes, notamment lorsqu'elles viennent des Suds, puisque le tract violet parle de ça. Il y a toute une approche aussi qui a à voir avec les violences policières. J'y reviendrai. Et sur la question des violences policières, ça a été remarqué hier, je le rappelle pour mémoire, puisque ça fait déjà partie de la conversation, c'est cette idée que les violences policières sont en fait une pratique d'un État autoritaire, ça vous l'aviez compris, qu'en France, ça prend une tonalité coloniale, puisqu'en fait, l'ensemble des techniques de répression policière ont toujours été testées dans les possessions coloniales avant d'être mises en place en France, ou alors il y avait des allers-retours, comme par exemple tous les préfets qui circulaient entre la France, que ce soit au moment de la Restauration, puis ensuite en Algérie, par exemple, hein, pour rétablir l'ordre et pour maintenir l'ordre et réprimer les résistances à la colonisation. Et c'est ce même schéma qui continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors, avec des formes de discontinuité, ça serait intéressant effectivement de réfléchir sur l'actuel et le virtuel de ce point de vue-là. C'est quoi le virtuel de la France, en fait ? Puisqu'on n'en parle jamais dans ces termes, en fait. C'est comme si nous n'étions que des êtres rationnels et que nous n'étions pas habités par des esprits. Il faut croire que l'esprit colonial habite la France. Et donc, l'idée, c'est effectivement de montrer en quoi est-ce qu'aujourd'hui, toute une partie, ou une large partie, en fait, des pratiques policières sont des pratiques qui ont été autorisées, validées dans le contexte de la répression coloniale et qui donc se perpétuent sans qu'on prenne la mesure justement de ce qui aujourd'hui est en train d'être réalisé par les populations françaises blanches, c'est-à-dire l'extrême violence du régime policier français, qui est en train d'ailleurs de s'inscrire dans la loi. Hein, je parle de la dernière, la loi anti-casseurs, mais il y en a bien d'autres. Donc c'est, ça aussi, ça fait partie des ramifications qui renvoient à l'État colonial qu'est l'État français, et à la façon dont ça s'inscrit plus largement, d'ailleurs, dans un espace qui m'a été rappelé dans le contexte de mon bref séjour, mais j'y retourne en Suède, et j'y reviens un instant, sur, en fait, ce que la France a contribué à promouvoir et qu'on appelle l'Eurafrique, qui est une catégorie qui a complètement disparu du discours public, mais qui a été très puissante à partir des années 20, et qui continue à être effective, même si elle n'est plus citée, notamment à travers la France-Afrique, à travers la France-Algérie, etc. C'est-à-dire cette volonté, et là je vous donnerai brièvement une citation, cette volonté de bien manifester effectivement que le colonialisme et le projet colonial est au fondement de l'intégration européenne et de la mise en place de l'Union européenne. Donc les auteurs de ce livre, dont je vais vous citer un extrait, Eurafrique, qui est écrit par deux Suédois, donc P.O. Hansen et Stefan Jonsson, reprennent à nouveau frais cette histoire-là, et ils nous expliquent, je cite, « Il s'agit d'explorer un espace de recherche inexploré, les fondations géopolitiques et coloniales du projet d'intégration européenne et de l'Union européenne en soi, non pas comme étant l'alternative au colonialisme, mais comme en étant la continuation. » Donc, je vais juste vous... je vais peut-être pas citer le livre parce qu'il est en anglais, mais alors... Donc, ce qu'ils expliquent, c'est la complicité des historiens et chercheurs sur l'UE, hein, sur l'Union européenne, en établissant une interprétation sélective et orientée du passé de l'Union européenne, dont ils systématiquement excluent les ressorts coloniaux et les soubassements contemporains, y compris économiques, de l'Union européenne. Donc, cela me permettait effectivement de comprendre à quel point, et alors ils expliquent dans une citation, je vous la rappelle de mémoire, qu'en fait les territoires d'outre-mer ont été fondateurs dès le début de la configuration et du découpage géographique de l'Europe. C'est-à-dire que ces territoires n'ont jamais été exclus dans l'esprit des fondateurs, et notamment des Français, mais aussi des Belges, et on comprend pourquoi, effectivement. Ils avaient en tête la carte de l'Afrique lorsqu'ils ont constitué ce qui allait devenir l'Union européenne avec ses frontières. Je voulais apporter ça à la discussion parce que dans le sous-titre de notre rencontre, en fait, il est question de l'Europe. Et donc, d'une certaine manière, ça permet aussi de dissoudre les frontières de la France dans celles de l'Europe et dans celles de l'Eurafrique que la France a contribué à constituer comme un impensé de l'Europe, et donc aussi comme au fondement du mythe de l'Europe. Hein, c'est-à-dire que c'est la part cachée ou c'est l'angle mort du mythe européen qui est celui qui renvoie, en fait, au fait que ça a toujours été omniprésent et nécessaire à la fondation de l'Europe. Donc ces éléments-là, on les retrouve jusqu'en Nouvelle-Calédonie parce que, vous l'aurez compris, la Nouvelle-Calédonie, je l'appelle comme ça, elle fait partie de la France, donc elle fait partie de l'Europe. Alors qu'elle est à 22 000 km down under, comme on dit en Australie, et pourtant elle est présente. Donc je vais maintenant essayer de prolonger cette réflexion. Donc j'étais en train de parler de la colonialité du régime de police en France. Et je voudrais m'arrêter un instant sur des épisodes qui peuvent sembler être distants dans le temps, mais qui sont profondément liés dans la continuité précisément de la répression. Donc en haut à gauche, vous avez un épisode... oui, c'est ça. Ah oui, super, merci beaucoup. Je croyais qu'il y avait que les médecins qui avaient ça pour faire des trucs très... ou les scientifiques. Alors comme je ne suis pas sûre d'en être une, je ne suis pas venue avec mon matériel. Donc en haut à gauche, vous avez un épisode récent. Donc je vais fonctionner à rebours, en fait. Merci beaucoup. Ouais. En haut à gauche, vous avez un épisode récent qui est celui de... en marge de manifestations lycéennes qui contestent les réformes successives et qui, d'une certaine manière, entendaient rejoindre l'ensemble des mobilisations à l'œuvre début décembre en France, donc le 6 décembre, dans une ville de banlieue qui a été évoquée hier par Barbara, Mantes-la-Jolie. Des lycéens ont été arrêtés en groupe, en fait, par un système en fait, de nasses policiers très efficace, hein, qu'on utilise depuis maintenant plus d'une décennie en France. Et ces lycéens ont été mis à genoux par les policiers pour les, nous dit-on, les neutraliser et les empêcher de continuer à nuire. Je vous passe tous les détails sur quel type de nuisance ils pouvaient bien être en train de pratiquer. Donc ces photos ont été diffusées et elles sont devenues virales sur le net. Parce qu'elle montrait, donc moi j'en ai eu connaissance le soir même de ce qui s'était passé à Mantes. Je sentais d'ailleurs d'un meeting à la Bourse du Travail de Saint-Denis, où c'était une première rencontre entre le comité Adama et les Gilets jaunes. Donc je sors de là et je reçois cette photo avec une espèce de cri d'indignation, d'horreur de la personne qui diffuse ça. Donc la police, en fait, est dans une forme d'imitation du comportement des professeurs. Et c'est donc le commentaire qu'on voit ici. Voilà une classe qui se tient sage, puisque le propre des élèves de banlieue, c'est d'être indiscipliné, incivil, et de ne pas être capable de s'adapter à la norme de l'école française. Et certains d'entre eux vont être donc mis dans cette position face à un mur, ça rappelle des souvenirs. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permis de faire le parallèle, il me semble important, avec ces arrestations en bas qui ont eu lieu au soir du 17 octobre 1961, qui est donc la manifestation pacifique qui avait été appelée par le FLN et l'ensemble de la résistance pour l'indépendance de l'Algérie à Paris et qui a été réprimée par le préfet Papon. Sur ordre du préfet Papon, les préfets jouent un rôle prépondérant dans le... Donc, vous pouvez, je pense, sans que j'ai besoin de commenter, établir le parallèle entre ces postures, ces formes d'humiliation publique et de dégradation de la dignité des personnes en question. Donc, le lendemain, deux jours plus tard, c'est ma photo, donc elle n'est pas top. Hein. J'étais derrière la police pour prendre des photos. C'était compliqué. C'était sur un des boulevards, un des grands boulevards. Les Gilets jaunes, le 8 décembre, ont donc adopté cette posture spontanément lors de manifestations. Et là, vous remarquez qu'ils se trouvent juste en face du camion qui, en fait, c'est le camion à eau, n'est-ce pas ? Celui qui va ensuite arroser les manifestants pour les faire fuir. Et ici, vous avez des manifestants qui ont spontanément se sont mis à genoux alors qu'ils sont à peine à mettre du cordon de police. Et donc tout ça nous rappelle entre-temps qu'il y a bien eu toute une série de violences policières qui se sont déroulées, notamment en 2005, ça avait été évoqué hier. Donc ce sont souvent les prénoms qui sont cités de plus en plus. Mais j'avais eu l'occasion, dans des travaux écrits, de rappeler qu'ils ont aussi un nom de famille. Donc Ziyad Bena et Bouna Traoré. Traoré est un nom qui est récurrent, en fait, dans les morts aux mains de la police. Et il est toujours important, effectivement, d'expliquer que ce ne sont pas juste des jeunes qu'on va désigner sur un mode familier, mais qu'en fait, ils nous sont profondément... il y a une forme d'excès qui doit être rappelée par le nom de famille et par celles et ceux qui les entourent et qui leur survivent et qui tentent d'obtenir justice. Alors, je voulais aussi développer un autre aspect de ma réflexion autour de la question des drapeaux. Et ça fait un retour assez inattendu et quelque peu paradoxal, en fait, dans nos champs visuels et dans nos horizons, avec des modalités qui peuvent être très différentes, mais qui, je ne prétends pas répondre à cette question, mais qui nous posent la question de savoir qu'est-ce qui est emblématique de cette mobilisation des drapeaux. Alors, il y a trois occurrences différentes. J'aurais pu en ajouter d'autres, notamment sur les drapeaux brûlés, par exemple. Mais je me suis centrée sur les drapeaux arborés comme des emblèmes et comme une expression de la fierté. Donc, vous avez en haut à droite, non, à gauche, pardon. Ici, c'est les Champs-Élysées au lendemain de la victoire de la France à la Coupe du monde de football. Donc, ils sont partout, sur les arrêts de bus, sur les dos des personnes. L'ambiance, ça c'est aussi une photo de moi, donc je me suis pas mal promenée ce soir-là. Et l'ambiance est à la fois très jeune, profondément multiraciale. Alors, si on avait des doutes, alors je ne vais pas vous faire le commentaire sur l'équipe de France, comme ça vous connaissez par cœur, vous avez tous eu l'occasion de développer un argumentaire pro-con, voilà. Donc, je ne le ferai pas. Mais par contre, il me semblait intéressant de voir que cet usage du drapeau, alors là, pour le coup, inflationniste, allait de pair avec quelque chose que j'ai enregistré, mais je ne sais pas trop comment le diffuser, donc je suis désolée, je ne le ferai pas, avec la mobilisation de l'hymne français, qui était entonné de façon un peu sur le mode de ce qu'on voit, vous savez, dans les émoticônes répétitives, là, où en fait, en boucle, vous avez un extrait d'une chanson qui revient de façon obsessionnelle, au point où ça finit carrément par vous agresser. Pendant tout le temps où j'étais sur les Champs-Élysées, l'hymne a été entonné à peu près toutes les 2 minutes de façon répétée. Voilà. Ça ne cessait pas. C'est-à-dire, je marchais où que je me trouve sur les Champs-Élysées, l'hymne était repris, y compris sur un mode sarcastique, c'est-à-dire en déformant le chant, en accentuant certains mots de l'hymne. Il y avait une forme de jeu, en fait, avec la nation, jeu avec la solennité de l'hymne, qui était complètement carnavalesque et qui s'est imposé dans toute l'ambiance qui régnait sur les Champs-Élysées. Alors, l'autre exemple que je voulais amener, alors vous allez me dire, c'est un peu étrange, il n'y en a qu'un seul, il fait nuit. En fait, c'est la nuit après l'annonce des résultats du référendum à Nouméa, donc en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Et je vous rappelle brièvement, en fait, a priori, le non, c'est-à-dire le refus de devenir indépendant, a gagné le référendum en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Sauf que l'écart étant beaucoup plus étroit que ce qui avait été annoncé, puisque tout le monde, les commentateurs, les médias, disaient d'abord qu'il y aurait des violences et qu'ensuite ça serait sanctionné par 70% de non, donc de maintien dans le cadre de la souveraineté française, et 30%, voire pourquoi pas 20%, n'est-ce pas, il y en avait qui rêvaient à un score complètement disproportionné. Le fait que le oui pour l'indépendance ait obtenu 46%, en fait, non, 43%, pardon, ça c'est juste moi qui aurais bien voulu, mais non. Non, c'est que 43, bon, mais c'est déjà 43. Donc, en fait, il y avait une liesse parmi les partisans du oui qui ont considéré qu'en fait c'était une victoire et non pas une défaite, parce que la démonstration avait été faite que les rangs en faveur de l'indépendance étaient beaucoup plus fournis qu'on ne voulait le dire, qu'ils avaient procédé de façon très calme, et je reviendrai sur le calme, Et que il n'y avait pas eu de violence qui avait émaillé le référendum, alors que c'est en raison d'une histoire profondément violente et violente dans un contexte colonial que le référendum a fini par être initié. C'était pour sortir d'un cycle de violence extrêmement long et qui a été meurtrier en Kanaky-Nouvelle-Calédonie. Donc tous les pronostics ont été invalidés cette nuit-là. Et donc en repartant chez moi, je croise ces jeunes Kanaks qui sont au bord de la mer, en fait, et qui continuent à brandir le drapeau, et qu'on croisera, en fait, hein, d'autres personnes me diront qu'elles ont vu la même chose. Il va continuer à être brandi tard dans la nuit, jusqu'au plus profond de la nuit, pour montrer que ce drapeau a bien un horizon d'existence. Et je voulais insister sur ce point parce que ce drapeau-là, et là je citerai un sociologue kanak qui s'appelle John Passa, et qui expliquait lors d'une émission de radio qui visait à commenter les résultats, il expliquait que en fait, la jeunesse kanak avait fait la démonstration à la fois de sa responsabilité politique, et ça nous rappelle quelque chose hein, sur l'irresponsabilité politique, par exemple, des jeunes des quartiers en 2005, qui ont été considérés comme n'ayant aucun propos politique. Donc cette responsabilité politique de la jeunesse kanak a été soulignée par John Passa, qui explique qu'ils sont la première génération qui assume d'endosser le drapeau kanak et de le porter sur leurs épaules, par exemple. Et donc, j'aurais pu vous montrer plein de photos où les jeunes avaient y compris le droit de rentrer dans les bureaux pour le référendum, pour aller voter, en arborant le drapeau kanak, ce que certains ont fait. Ils arboraient les signes, en fait, de leur opinion politique et de leur volonté d'indépendance. Dernier exemple qui est récent et qui nous parle particulièrement aujourd'hui, puisque c'est vendredi, et comme disent maintenant les Algériens, c'est vendredi, c'est-à-dire c'est jour de manifestation. Et donc, deux images, une qui est prise à Alger, place Odin, et qui rappelle donc que nous sommes dans un cycle inédit, improbable, inespéré, voire pour certains miraculeux, c'est-à-dire la mobilisation de toute la population algérienne pour mettre à bas le système qui a été mis en place au lendemain de l'indépendance, et qui le fait de façon massive. Donc vous voyez la concentration de population avec ces drapeaux qui viennent couvrir les têtes, et elle le fait dans le calme. Ça nous rappelle quelque chose sur le fait qu'une jeunesse ne peut se soulever que dans le désordre et dans l'hyperviolence. Là, ce n'est pas le cas du tout. Et elle le fait aussi avec un critère, donc « selmiya », hein, ça a été le mot qui a été avancé dès le début des manifestations, c'est-à-dire « paix » ou « pacifique ». C'était la façon de qualifier ces mobilisations. Et elle le fait d'ailleurs aussi avec un mot d'ordre qu'elle a mis en avant dès le début, qui est celui de la propreté. C'est-à-dire que toutes les manifestations, en fait, doivent se disperser et enlever toutes les traces de leur passage. Donc cette logique de la propreté, en fait, qui est très importante en Algérie, y compris parce que l'Algérie est un pays qui connaît un stress hydrique depuis des décennies, c'est-à-dire un manque d'eau, qui fait que les rues ne peuvent pas être nettoyées, que voilà, il y a une puanteur ordinaire dans la ville, cette façon d'aller à l'encontre de ce qui a été finalement leur pays, qui a été de plus en plus sali et qui a fini par s'installer dans la saleté, le fait de dire que ces manifestations sont à la fois pacifiques et propres a une charge politique extrêmement importante. Et d'ailleurs, en marge de ces manifestations, donc là, on est place Audin. Je signale que Audin est un mathématicien français qui a été arrêté, torturé et exécuté par la police et par les parachutistes en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Il a été reconnu en septembre dernier comme étant effectivement bien victime d'un crime de l'État français à son encontre. Cette place existe depuis l'indépendance. Depuis toujours, moi, quand je vivais à Alger, on allait place Audin. Vous avez le tunnel des facultés ici. Et effectivement, quand c'était l'endroit d'ailleurs où on se faisait souvent approcher de très près par des hommes. Soyons clairs, n'est-ce pas ? C'était le lieu où ça se passait. Et donc, sur cette place, en fait, ça a toujours été le centre politique et l'épicentre de tout ce qui se joue en Algérie, d'une certaine manière. Alors, je le rappelle parce que Audin, c'est un nom qui commence à peine à émerger dans la mémoire collective française. Ça fait à peine 6 mois que, pour certains, il existe. Alors qu'en Algérie, il a toujours été le nom par lequel on désigne l'endroit de tous les ralliements, de toutes les rencontres, de toutes les convergences. Et ceci, c'est la place de la République, donc à Paris, qui, depuis le début des manifestations le 22 février, fonctionne en écho. Et donc il y a donc une diaspora algérienne qui se réunit tous les dimanches pour venir discuter, débattre et simplement chanter beaucoup. Donc il y a énormément de chants, de danse en fait. Les gens chantent et dansent. Et des you-you, je ne sais pas le faire. Donc il faudrait que je m'entraîne un peu. Mais... Ou alors peut-être que je sais le faire, mais j'ose pas. C'est plutôt ça. Et donc les you-you fleurissent en fait sur la place de la République. Donc si vous avez l'occasion, dimanche prochain, vous pouvez aller à la République et vous verrez cette ambiance qui fait écho et qui veut... être à la hauteur de ce qui se joue en Algérie. Voilà, donc ça, c'était les premières images qui sont un peu ordonnées, comme vous pouvez le voir. Tout va bien jusque-là. Après, ça se gâte. Mais ça tombe bien, parce que j'ai plus beaucoup de temps, c'est ça ? Voilà, c'est super. Donc, je vais... ça, c'était front stage. Donc, je suis propre sur moi et tout, j'ai bien fait les choses. Et après, c'est backstage... Et donc là, ça devient n'importe quoi. J'ai essayé d'ouvrir le dossier et puis de le montrer. Mais même ça, ça n'a peut-être pas marché d'ailleurs. C'est... Alors, ça, je vais le passer. Je vais être dur là, parce que du coup, je vais faire des tris. Non, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est un texte de La Chapelle Debout qui raconte comment est-ce qu'elle accompagne une personne qui va demander sa régularisation. Alors, vous le savez, en France, ça, c'est aussi un autre régime de conditionnalité qui vise, en fait, à réguler les flux de régularisation en ne faisant que du cas par cas, c'est-à-dire en refusant systématiquement toutes les demandes de régularisation collective, alors qu'elles avaient été par le passé autorisées, notamment en 97, en 82. Aujourd'hui, l'idée, c'est de diviser le plus possible entre les personnes, de les renvoyer dos à dos sur ce qu'elles pourraient considérer comme étant un droit légitime à la régularisation. Ça, c'est la manifestation du 8 décembre, donc, qui partait de Saint-Lazare. Et vous voyez de dos des membres du comité Adama, en fait. J'étais juste derrière. Donc là, c'est plutôt mes photos qui ne sont pas très bonnes. Voilà, elles sont ce qu'elles sont. Et il y en avait certaines... c'est un peu dommage parce que, du coup, présentées comme ça... Ça, c'est la... Alors, je vous montre les choses de façon un peu chaotique. Mais je pense que ce n'est pas inutile de voir aussi que c'est comme ça que ces créatures, nous, à un moment donné, nous mobilisent et nous sollicitent. C'est dans des moments de capture improbables, c'est parce qu'on se trouve à un endroit de façon fortuite et que ça vient se rappeler à nous. Alors ça, je voulais peut-être vous le montrer de façon plus insistante. Donc ça, c'est en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Et c'est une salle de réunion, en fait, pendant la campagne électorale du référendum, où ça se passe dans une tribu à l'extérieur de Nouméa. Et ce que vous voyez là, c'est l'arrivée en fait du public, avec au fond cette fresque murale qui représente tous les militants indépendantistes kanak. Donc vous avez là Eloua Machoro, après il y a Yewene Yewene, il y a Jean-Marie Tchibaou, et il y en a un quatrième qui est sur une autre photo. Je vous prie m'excuser, mais c'est pas celle que j'ai prise. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ces jeunes hommes que vous voyez là, en fait, à peine arrivés dans la salle, ils vont prendre des photos de la fresque murale. Ils sont littéralement attirés par ça, comme une sorte de magnétisme. Donc, ils vont longtemps rester là à prendre des photos. Alors, vous voyez que y a des drapeaux partout. Puis ensuite, au cours de la discussion qui va se tenir pendant 3 heures, parce que les meetings politiques n'ont pas du tout la même facture selon que l'on... Alors, je suis allée écouter les partisans du non et les partisans du oui. Les partisans du oui, qui sont donc indépendantistes, prennent leur temps, et ça a à voir avec la culture océanienne et la culture kanak, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail d'installation dans la parole, de silence autour de la parole, qui lui donne donc une valeur et une intensité encore plus grande. Et ces jeunes hommes qui sont là, qui sont les mêmes que ceux qui ont pris les photos, vont pendant quasiment toute la séance se tenir comme ça, à regarder leur téléphone ou alors à peut-être un peu converser entre eux. Donc cette façon d'être présent, silencieux Et voûter, je le rappelle aussi, parce qu'il y a une logique de l'humilité qui consiste à autant que possible ne pas se tenir complètement érigé. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que c'est le contraire de la posture arrogante coloniale que j'observerais dans les meetings du non, y compris de la part de femmes, hein, qui sont littéralement érigées. C'était tout à fait frappant. Cette posture-là, en fait, elle dit quelque chose de l'attention, parce qu'on pourrait se dire, mais en fait, ils n'écoutent pas, ils font autre chose. Non, en fait, il y a une attention à ce qui est dit, qui consiste notamment à ne pas intervenir et à ne pas prendre la parole. Donc, tous nos régimes qui consisteraient à dire, en fait, give a voice, par exemple, hein, cette idée de voilà, accorder une voix, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif dans le contexte kanak, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un prend la parole, et ce n'est pas parce qu'on demande la parole, forcément, qu'on est mieux considéré ou que l'on va pouvoir affirmer sa subjectivité, sa dignité, etc. Donc, c'était particulièrement intéressant de pouvoir observer ces régimes complètement contre-intuitifs, en fait, de présence et de prise de parole, qui se manifestent par le silence et la lenteur. Alors, je crois que par la suite... alors, ça, c'est le meeting qui se tiendra dans une des grandes salles et qui va se finir par des chants endiablés. Donc, c'est un des rares moments... alors, donc, ça, c'est le mot d'ordre qui est développé par les partisans du oui. Et je voulais finir sur une sorte de retour, hein, sur, si j'arrive à retrouver la photo. Vous ne m'en voudrez pas, ça c'est... Voilà, le drapeau qui est sur toutes les épaules, le drapeau kanak. Et j'espère retrouver la photo qui m'intéresse particulièrement, mais ce n'est pas gagné. Non, ça c'est le meeting du non. Dans un amphi à la fac, tout le monde est propre sur soi. Et ça se passe de façon disciplinée avec des prises de parole ordonnées qui sont celles des leaders du mouvement et des partisans du non. Voilà. En fait, j'avais une autre disposition qui ne fonctionne pas ici. Bon, ça, c'est les deux drapeaux côte à côte. Non, je ne vais pas y arriver. Je voulais vous montrer des photos. Voilà, ça, c'est la fresque dans son intégralité. Alors, je vais peut-être juste vous le raconter, du coup. Alors, je vais pas solliciter votre vue, mais plutôt votre attention. Alors, au cours de ce voyage, j'ai renoué, et donc je reviendrai peut-être à une photo que je vous ai montrée à un moment donné et qui manifeste la façon dont la mobilisation des Algériens en France a été réprimée. Avant cela, il y avait eu une autre mobilisation, une autre résistance qui avait été réprimée et qui est liée à l'histoire de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie, qui est celle des Algériens qui se sont donc insurgés contre la colonisation par la France. Beaucoup de ces Algériens, politisés ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a deux catégories d'Algériens qui vont être déportés vers la Nouvelle-Calédonie, puisque la Calédonie était aussi une colonie pénitentiaire. C'est une colonie de peuplement et une colonie pénitentiaire. Dans ce contexte, les Algériens vont donc venir à la rencontre des Kanaks et vont être immédiatement séparés des Kanaks, d'une certaine manière, puisque les Kanaks vont être recrutés pour être les gardiens de la colonie pénitentiaire où se trouvent les Algériens, mais aussi les communards, hein, donc les résistants de la Commune de Paris qui ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'on va là-bas, en fait, il y a quelque chose de frappant. Avec les images, ça parle encore mieux. J'aurais pu carrément vous laisser regarder sans commenter. C'est que vous longez des plages paradisiaques, c'est un pays magnifique, et à l'intérieur, c'est-à-dire à peine à 400-500 mètres derrière ces plages, vous avez la prison, vous avez le cimetière, vous avez la colonie pénitentiaire, en fait, qui est là et qui se déploie dans son ordinaire, avec des cellules, avec des cachots. Et c'est exactement au même endroit que tout ça se passe. Alors, il y a aujourd'hui des mémorials, on va dire. Il y a des endroits qui commémorent cette réalité-là, qui ont été voulus soit par des Algériens qui sont venus d'Algérie et qui ont redécouvert la présence de leurs ancêtres sur place, soit par des locaux, hein, c'est-à-dire des Kanaks, des collectifs de Calédoniens et de Kanaks, qui souhaitent faire connaître le fait qu'il y a eu cette présence qui était due à une histoire commune, qui est celle de la colonisation, et de ses débouchés dans un contexte parfois étrangement similaire. Donc il y a des ce qu'on appelle là-bas des Arabes, en fait. Ils ne sont pas appelés Algériens. Ils s'appellent eux-mêmes Arabes, même s'ils sont parfois Kabyles. Et c'est donc ces rencontres-là un peu improbables que j'ai essayé de retracer pour montrer en quoi est-ce que ces circulations, en fait, entre des espaces différents, entre des lieux qui semblent être attachés à des histoires qui leur sont propres, en fait, sont systématiquement décalées ou expropriées, d'une certaine manière, de leur histoire par le fait qu'il y a bien une logique coloniale, il y a toute une série de circulations sous-jacentes ou explicites qui continuent à habiter ces lieux et qui, d'une certaine manière, sont passées par moi. Donc c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, j'ai souhaité vous en faire part. Ce n'est pas tant parce que je sais quoi en faire, mais plutôt parce qu'elle me traverse, pour des motifs différents, mais complémentaires. J'en suis aujourd'hui à me demander, et je pense que ça sera très utile pour moi d'entendre vos remarques et vos réactions, j'en suis à me demander qu'est-ce que je peux faire de ça, sans en revenir à la routine de la chercheuse, sans redevenir chercheur, et sans cesser pour autant de parvenir ou d'essayer en tout cas de faire sens de tous ces lieux, de toutes ces expressions, de toutes ces émergences et de toutes ces créatures que je vous ai montrées à l'instant. Je vous remercie.